Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro Rebelle et bienvenue sur notre émission Micro Rebelle Hebdo. Donc Micro Rebelle, c'est la radio des alternatives et des luttes sociales qui s'appuie sur les initiatives mises en œuvre dans le bassin minier du Pas-de-Calais et au-delà. Vous pouvez retrouver, donc c'est un rappel, vous pouvez retrouver Micro Rebelle sur internet, sur notre site microrebelle.fr, en direct et en continu. Vous pouvez également nous écouter en différé. Toutes nos émissions sont téléchargeables, podcastables sur microrebelle.fr. Et par ailleurs, Micro Rebelle est également diffusé par nos amis de Radio PFM 99.9. Le mercredi soir à 22h, le jeudi à 17h, le dimanche matin à 9h. Ce sont également les horaires de diffusion de microrebelle.fr. Voilà, donc je vous présente cette émission Micro Rebelle Hebdo. Donc nous allons démarrer par un premier retour sur les actualités passées, les actualités des luttes et des initiatives dans le bassin minier et au-delà. Nous aborderons ensuite l'agenda. L'agenda, ce sont les annonces en quelque sorte, les annonces culturelles, politiques, les luttes, les annonces très diverses pour les jours à venir. Et nous terminerons par deux reportages. Le premier reportage concerne justement une soirée qui s'est déroulée au LAG, une soirée contre la criminalisation des mouvements sociaux. Vous savez que en ces périodes de lutte sociale, de lutte contre la loi travail, il y a une répression qui est quand même assez sensible et qu'on dénonce fermement. Donc c'est l'objet de cette soirée que nous aborderons à l'occasion de ce premier reportage. Et puis le deuxième reportage, c'est la suite de nos chroniques kurdes. Donc vous le voyez à l'énoncé de cet ordre du jour, de cet agenda, Micro Rebelle s'inscrit complètement cette semaine dans la semaine spéciale engagement social qui est proposée par nos amis de PFM 99.9 du 30 mai au 5 juin. C'est une contribution qu'il nous plaît d'apporter à cette belle semaine de nos amis de Radio PFM. Très bientôt sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. D'ores et déjà, je vous propose de démarrer ce Micro Rebelle Hebdo par les actualités.
L'Athénée du Lag est un moment de partage organisé au Lag tous les troisièmes samedis du mois, de 10h30 à 12h30, et bien sûr suivi d'un repas collectif. Le but de ce rassemblement est d'échanger librement sur un thème donné, en se basant parfois sur des films ou même d'autres événements. La dernière séance était le samedi 21 mai et était consacrée aux enseignements de mai 68. Je vous propose d'écouter quelques intervenants présents lors de ce débat.
La logique policière consistait à séparer les étudiants des travailleurs, à empêcher les contacts, à cantonner les étudiants dans le quartier latin, ou encore à empêcher l'interaction étudiants-travailleurs lors de la bataille rangée qui prit place, entre autres, à l'usine Flin au mois de juin 68. La violence avec laquelle cette tâche fut accomplie, que ce soit par les délégués syndicaux de la CGT, par De Gaulle, par le Parti communiste ou la police elle-même, donne une idée de la menace qu'une telle politique représentait.
Ce qui fait que moi j'ai connu en 68, ça a été vraiment le côté émancipateur féminin. Dans le sens où ma mère faisait grève pour ça, entre autres. Donc c'était, je rappelle quand même, l'accès à la pilule, l'accès donc à la contraception, l'avortement. Au niveau du gestion du budget, les femmes n'avaient pas encore le droit de gérer exactement le budget comme elles voulaient. Je crois qu'il fallait encore et puis au niveau du divorce aussi, où on n'avait toujours pas le droit de divorcer sans l'accord du mari. Enfin, c'était quand même, j'ai ressenti comme une société très verrouillée au niveau sociétal.
Les jeunes à l'époque, ils remettent en cause un modèle métro, boulot, dodo. Hein, autrement dit, ils ne se battent pas pour des acquis liés à un confort étudiant, mais ils se battent pour une autre conception de la vie. Hein, et donc, il dit l'année 68 connaît également le printemps de Prague.
Tout à fait.
Qui vise l'idée de réaliser un socialisme à visage humain, hein, la révolution culturelle en Chine et le mouvement hippie aux États-Unis, un mouvement culturel libertaire irrigue le monde des deux côtés du rideau de fer, la génération issue de l'après-guerre remet en cause les deux piliers des deux modèles qui se sont partagés le monde à Yalta, c'est-à-dire le productivisme et l'État. Ce mouvement culturel n'attend plus le bonheur de l'accumulation des richesses et il ne compte pas sur l'État pour garantir l'intérêt général.
Comme ma collègue qui vous avait présenté la semaine dernière, la fête des voisins a été organisée par le LAG. Cette soirée consistait à faire un échange autour d'une table avec des personnes qu'on n'avait pas forcément côtoyées. Beaucoup de personnes du magasin gratuit ont été présentes lors de cette soirée. Je vous laisse donc en compagnie d'une interview lors des échanges qui ont eu lieu le vendredi 27 mai.
C'est parce qu'il y avait un petit prospectus dans la boîte aux lettres, donc du coup on s'est dit pourquoi ne pas y aller avec mon mari.
Enfin, je connaissais déjà l'endroit, hein, ma mère m'en avait parlé. Et puis quand on a reçu le petit papier, on s'est dit, bah, on va essayer, hein, parce que ça a l'air cool de faire une fête des voisins comme ça.
Quand on est arrivé, on a eu droit à un apéro, on a pu faire connaissance avec toutes les personnes qui étaient là. Et puis petit à petit, il y a du monde qui est arrivé. Donc on a continué à parler, à rire, à blaguer. Et ensuite, après, c'était donc le repas qui était très bon. Alors chaque personne avait ramené un petit quelque chose. Et donc là, je crois qu'on n'a jamais autant mangé. Et après, donc, la danse qui était très sympa. Enfin, j'ai appris des pas de danse que je ne connaissais pas. Donc voilà. Donc pour le bilan, très bonne soirée.
Ah oui, bah c'était bien. Et puis quand on est arrivé, franchement, un très bon accueil. Tout le monde souriant. Puis on fait des connaissances. Oui, c'était bien. Et puis c'était bon. Et c'était très convivial.
Samedi 28 mai a eu lieu au secours catholique de Arles une collecte de denrées alimentaires afin d'aider les populations roms qui se trouvent dans le bassin minier. Les roms vivent soit dans des camps ou soit dans des squats, donc ils sont des maisons abandonnées. Ils ne mangent pas à leur faim et il y a aussi beaucoup d'enfants. À l'occasion donc de la fête des voisins, le collectif de fraternité Rome a demandé donc à d'autres associations ou à la population donc de collecter des denrées alimentaires. Je vous propose maintenant d'écouter donc quelques membres de ce collectif qui lors de cette matinée de soutien.
Bah, nous c'est important pour aider, comme on dit, aider les uns les autres et puis aller sur les camps, les aider, voir ce qui se passe. Le manger, les médicaments, leur donner un quelque chose.
Moi, je suis ici parce que, en habitant Montigny-en-Gohelle, j'ai l'occasion depuis plusieurs années de voir des Roms dans les magasins de Montigny, qui me semblaient vivre dans des conditions indignes, ce qui m'a indignée et j'ai voulu faire quelque chose.
Place maintenant à l'agenda, les annonces culturelles, les annonces politiques, les annonces des luttes et des initiatives à venir dans les jours qui viennent.
Ce mardi 7 juin 2016 à 19h aura lieu à la Maison des Sociétés, donc 16 rue Aristide Briand à Arras, une conférence débat sur l'urgence climatique organisée par Attac Artois et donc qui sera... suivi de Maxime Combes, économiste et militant pour la justice climatique, ainsi qu'auteur de livres. Donc cette conférence abordera les problèmes et enjeux du réchauffement climatique. Par exemple, le fait de laisser dans le sol 80% des ressources, des réserves d'énergie fossile. Mais aussi cette conférence abordera donc la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 et de ce qu'il en est réellement. Elle nous questionne aussi sur ce que nous, citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire face donc au réchauffement climatique. Toutes ces questions seront donc abordées par Maxime Combes le mardi donc 7 juin à 19h à Arras.
Lundi 6 juin, notre ami Paul Masson organise une formation gratuite de 9h30 à 17h qui consiste à apprendre à animer un ciné-débat. Vous vous demandez quelle est la meilleure façon d'animer un débat ou un ciné-débat, je vous conseille donc de vous inscrire à cette journée de formation avec Paul Masson à Arras. Je vous rappelle que c'est le lundi 6 juin de 9h30 à 17h.
Le 7 juin à 18h est organisée par la Fondation de France au Louvre-Lens une soirée durant laquelle tous les projets financés par la Fondation seront mis à l'honneur. Cette soirée a pour but de montrer qu'avec un peu de soutien, tous les projets sont réalisables et que malgré ce qu'on en dit, c'est une région qui bouge, le bassin minier. Vous êtes donc tous invités à participer à cet événement et à venir découvrir tous ces projets.
Ce samedi 4 juin, de 11h à 12h30, aura lieu au LAG la fête des souscripteurs. Donc c'est une rencontre qui se fait au LAG et qui est organisée par le LAG. Elle concerne essentiellement les souscripteurs et souscriptrices qui contribuent au financement du LAG. Mais au-delà de ses partenaires financiers, c'est aussi une rencontre qui est plus ouverte puisque tout le monde peut venir afin d'échanger avec les autres participants et de découvrir le LAG. Donc cette rencontre se fait le samedi 4 juin de 11h à 12h30 au LAG, qui sera suivi d'un repas pris en commun. Et donc n'hésitez pas à venir pour passer à un moment convivial.
Donc le 4 juin aura lieu l'anniversaire du secours catholique organisé par la délégation d'Arras. Donc ce sera à Olin. C'est toute la journée à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Alors sont invitées toutes les personnes qui ont rencontré un jour ou l'autre le secours catholique. Ça peut être des associations, ça peut être des particuliers. L'idée c'est ne pas être fermé au public, hein, c'est pas réservé qu'aux bénévoles et qu'aux salariés du secours catholique. Non, c'est ouvert sur toute la population du département. Pour l'occasion, la délégation d'Arras va mettre à disposition des bus sur les différents territoires du Pas-de-Calais. Donc renseignez-vous auprès de vos secours catholiques locaux pour voir sur quel départ de bus vous pouvez être. Vous pouvez venir seul ou en famille, avec des amis, il n'y a pas de souci. La journée de l'anniversaire va se dérouler avec plusieurs temps forts. Il y aura la projection d'un film qui va revenir, d'un film sur les marches fraternelles qui ont eu lieu sur le département entre mars et mai, grosso modo. Il va y avoir un repas qui est payé par le secours catholique. Donc ce sera, si je me rappelle bien, frites, saucisses, quelque chose de très simple. Et puis l'après-midi, il y aura, et durant toute la journée, il y aura plein d'activités pour les adultes, les enfants. Il y aura un village associatif. Donc le secours catholique est en train en ce moment d'inviter plusieurs associations à venir présenter leur projet, leur démarche. Donc si vous êtes une association et que vous voulez vous rapprocher de l'événement, n'hésitez pas à contacter le secours catholique. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus le 4 juin à Olin, donc c'est un samedi, pour passer une journée festive.
Le 13 juin à 20h se déroulera au Cinémovida à Arras la diffusion du film Comme des lions de Françoise Davis qui relate les grèves de deux ans survenue sur le site de PSA Aulnois contre la fermeture de leur usine. Vous êtes donc tous les bienvenus pour découvrir ce film qui, je le pense, vous fera réfléchir aux conditions de travail de nos ouvriers.
La loi El Khomri est passée à l'Assemblée nationale avec le 49-3. Désormais, elle doit passer au Sénat le 14 juin. C'est d'ailleurs cette date-là que les manifestants ont décidé de manifester partout en France. Pour ceux à qui ça intéresse dans le Pas-de-Calais, des manifestations vont donc se passer à Arras, Béthune et Lille, en espérant que ces manifestations se passent sans encombre.
Comme chaque deuxième jeudi du mois, le LAG organise une soirée film avec deux thématiques. Celle de 20h a pour thème la couleur blanche et celle de 22h, le thème est femmes de cinéma. L'accès est libre et se déroulera le jeudi 9 juin au 23 avenue Jean Jaurès, au LAG.
C'est maintenant l'heure de notre premier reportage, un reportage consacré à l'actualité toute chaude, à l'actualité des luttes sociales, notamment à l'occasion d'une initiative organisée au LAG concernant la criminalisation des luttes, la criminalisation des luttes sociales. Bonne écoute.
Bonjour Michel, quel a été le but de cette soirée ?
Alors, donc la soirée sur les médias et la criminalisation des mouvements sociaux, le but c'était avant tout de pouvoir apporter un soutien à la CNT Lille qui a eu son local saccagé en avril par les forces de police. Et ensuite, donc on est parti sur cette soirée-là où en fait on mettait en avant la représentation dans les médias des mouvements sociaux et du coup le traitement médiatique de ces mouvements sociaux. Et donc on était trois à organiser cette soirée et on s'est intéressé en fait à trois angles. La première partie de la soirée, c'était, on l'avait intitulé « C'est pas nouveau », où en fait on revenait avec des exemples d'anciens mouvements sociaux. On a essayé de mettre en avant le fait que la violence dans les manifestations, la violence liée aux mouvements sociaux, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on entend souvent ce discours à l'heure actuelle dans les médias, que ce soit la presse écrite ou les journaux télévisés. On entend énormément ce discours qui est qu'il y a une violence qui n'existait pas avant. Il y a une violence de la part des manifestants qui n'existait pas, etc. Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte que non, en fait, il y a toujours eu une violence, voire des violences, des actes beaucoup plus forts que maintenant. Donc, cette partie était organisée autour de trois films, enfin deux extraits de films et un court-métrage de 22 minutes. Donc le court-métrage de 22 minutes, c'est un court-métrage fait par le groupe Medvedkin. Donc brièvement, le groupe Medvedkin, c'est un groupe de cinéastes qui s'est formé en 1967 à l'instigation de Jean-Luc Godard et Chris Marker, qui sont allés avec d'autres, à la rencontre d'ouvriers, donc des ouvriers de Besançon et de Sochaux, pour les former à l'outil cinéma, et qu'à terme, en fait, ces ouvriers filment leurs luttes, leurs mouvements sociaux. Donc, le court-métrage qu'on a diffusé hier, c'était Sochaux, 11 juin 1968, par le groupe Medvedkin de Sochaux, qui revenait en fait sur la manifestation du 11 juin 68 de l'usine Peugeot de Sochaux, où au cours de cette journée il y a eu à peu près 150 blessés et deux morts du côté des manifestants. Ensuite, il y a eu un autre extrait du groupe Medvedkin, tiré du film Avec le sang des autres, qui est réalisé en 1974, toujours sur l'usine Peugeot de Sochaux, où là, l'extrait montrait les affrontements entre les manifestants et les forces de police, les CRS, en l'occurrence, mais lors des mouvements du coup de 1974, par rapport à l'usine. Et enfin, le dernier extrait de cette partie était un extrait du film « Puisqu'on vous dit que c'est possible » de Chris Marker, qui revient sur le mouvement social de l'usine LIP, réalisé en 1973. Il y a eu une partie sur le mouvement social de l'usine continentale de Clairvoix en 2009. Et là, on a montré un extrait, un long extrait, hein, de 30 minutes à peu près, du film de Jérôme Paltot qui s'appelle Les Contis gonflés à bloc, qui justement, en fait, c'est un film qui retrace la lutte de ces ouvriers de l'usine continentale. Mais dès le début, en fait, dès le 11 mars 2009, puisque Jérôme Paltot a participé à tout le mouvement, du début jusqu'à la fin. Et l'extrait, en fait, encadre la fameuse séquence du saccage de la sous-préfecture de Compiègne, qui a fait connaître, en fait, au grand public les Contis. Et on a choisi cet extrait parce qu'en fait, dans les médias, en fait, à l'époque, et dans la presse écrite et les journaux télé, cet événement a été un peu le point de départ, le point d'orgue, le, entre guillemets, avec un en majuscule, l'événement central de la lutte des Contis. Alors qu'en réalité, bon, le saccage de la sous-préfecture de Compiègne, dans leur histoire aux Contis, c'est un événement parmi tant d'autres, c'est un effet de boule de neige. Et donc on encadre cette séquence avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Pourquoi, en fait, il y a eu le saccage? Il y a eu le saccage parce que ça faisait des mois qu'ils réclamaient une tripartie entre les patrons de l'usine continentale, eux, les syndiqués, les ouvriers, et un représentant du gouvernement, pour justement régler la question du plan social de l'usine continentale. Et en fait, il y avait la sourde oreille des deux côtés, et juste après ce saccage, justement, ils ont dit d'accord, mais sauf que ça a traîné en longueur, en temps, ça a traîné dans le temps le fait qu'ils puissent se réunir autour d'une table. Donc on a encadré ça dans cette séquence, et c'était plutôt intéressant. Et enfin, la troisième partie, où là, on a vraiment insisté sur l'actualité, donc autour des Nuits Debout et des manifestations autour du projet de la loi travail. Où là, c'était des extraits, hein, des journaux télé type BFM, France 2, iTélé, etc. Donc on revenait sur des séquences qui étaient surtout centrées, en fait, sur comment les journalistes, en fait, représentaient au grand public le profil type du manifestant, du casseur, quelques tentatives un peu désastreuses de la part de certains intervenants et invités sur les plateaux télé, d'expliquer la sociologie un peu, notamment des participants en Nuit Debout, etc. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, la soirée, en fait, s'organisait autour de diffusion et puis des débats. Hein. On a laissé une grande partie du temps, l'espace-temps, pour qu'ils puissent, que les participants à cette soirée puissent s'exprimer. Autour de leurs témoignages, soit parce qu'ils avaient participé à des manifestations, soit parce qu'ils avaient été eux-mêmes victimes de violences policières, etc. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très très intéressant.
Alors, la soirée a été un soutien à CNT Lille. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est?
Alors, la CNT, donc c'est, ça veut dire le sigle, ça veut dire Confédération Nationale du Travail. Et en quelques mots, c'est un syndicat qui défend les droits des travailleurs et aussi des chômeurs. Et plus largement, c'est un syndicat qui prend part énormément aux mouvements sociaux, justement pour la défense de tout ce qui est droit social, droit du travail. Et donc, alors, le soutien, mais bon, je vais le répéter, du coup, c'est parce que le local de la CNT Lille a été saccagé par les forces de police en avril, à la suite d'une manifestation qui avait eu lieu sur Lille. Et les forces de police ont saccagé le local, ont perquisitionné, en fait, sans autorisation, ont interpellé deux syndiqués, ont apparemment pris des documents, etc. Donc la soirée, c'était un hommage pour ce qui... Enfin, un hommage. Un soutien, plutôt, pour les aider à refaire leur... Enfin, leur apporter un soutien un peu financier pour, par rapport au procès des deux syndiqués, parce que ça va coûter cher pour eux, et puis pour qu'ils puissent reconstruire un peu leur, leur local.
Pensez-vous avoir réussi votre soirée ?
Oui, non, mais alors déjà parce que on est content, on s'est vraiment amusé à faire la sélection des extraits de films, la sélection des journaux télé, ça nous a vraiment plu, c'était vraiment intéressant. Donc nous, on y a pris un malin plaisir, on a aimé ça, donc pour nous c'est réussi là-dessus. Et puis c'est réussi parce qu'on a eu pas mal de retours positifs des participants qui ont bien aimé ce genre de soirée où c'est pas forcément juste du visionnage intensif, c'est du visionnage, mais derrière il y a des échanges, il y a une intelligence collective qui se forme. Et ça, c'était vraiment intéressant, notamment sur la partie, c'est pas nouveau, hein, qui revient sur d'anciens mouvements sociaux. Que du coup, il y a des militants qui ont beaucoup de bouteilles et qui, à l'époque de 68, avaient déjà soit 30 ans, soit qui étaient bien actifs là-dedans, donc qui ont pu apporter un regard ou des indices historiques. Et nous, en préparant cette soirée, on n'avait pas forcément en main, notamment sur le conflit de l'usine NIP. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et du coup, ça a permis d'apporter pas mal de débits aux différents débats. Et donc ça, c'était vraiment apprécié. Bah, nous, on a apprécié le fait que cette intelligence collective se mette en marche. Les participants ont vraiment apprécié de pouvoir avoir du temps à débattre entre les extraits.
Quel genre de réaction ont eu les participants face à cette soirée qui racontait ce genre de problème ?
Bah oui, la réaction positive du coup, très positive. Et puis le fait de pouvoir témoigner aussi des fois des expériences personnelles, individuelles, ça fait tout ça. Je pense que une partie des participants a apprécié pouvoir justement témoigner à titre individuel de leur expérience. Ça fait toujours du bien de pouvoir s'exprimer sur quelque chose qui est qu'on ressent tous un peu différemment, notamment par rapport aux violences policières. Donc ça, je pense que ça a été apprécié. Et puis du coup, oui, les réactions, elles ont été globalement très positives, quoi.
Quel message, à travers cette soirée, vous voulez faire passer ?
Il n'y a pas forcément de message. Là, c'était plus une soirée de type éducation populaire, échange d'idées, échange de connaissances. On n'a pas apporté un message clair et net. On n'a pas apporté de réponse sur pour changer le monde, il faut faire ci, il faut faire ça. Prendre du temps, prendre un peu de recul sur le traitement médiatique. Et pas non plus partir dans le matraquage. D'idées reçues, on était plus sur le mode de on prend du recul sur les médias. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça, il y a déjà énormément d'initiatives là-dessus, mais ça fait toujours du bien de lever un peu le pied là-dessus et puis de pouvoir prendre du temps d'en débattre ensemble sans apporter forcément de solutions. Là, c'était plus un échange d'idées et c'est toujours agréable d'avoir ce genre de rencontre.
Comptez-vous refaire une soirée comme celle-ci ?
Moi, j'ai, à titre individuel, oui, parce que j'ai vraiment apprécié la préparation en amont, collecter des vidéos, regarder pas mal de documentaires, etc. Donc ça, c'était vraiment agréable. Et du coup, on s'est vraiment amusé à faire ça et ça nous plairait bien, ouais, de refaire ce type de soirée. refaire ce type de, d'événement, ouais, c'est quelque chose où on y pense. On va essayer de voir quand, comment on va pouvoir mettre ça en place.
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et à bientôt.
Bonjour et bienvenue sur Micro Rebelle, à l'écoute de nos chroniques kurdes. Aujourd'hui, ce sera donc la deuxième de ces chroniques kurdes. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter l'ensemble de ces chroniques sur notre site internet en téléchargement microrebelle.fr. Lors de notre première session, nous avons abordé ce qui se passe au Kurdistan turc, le Bakour, et au Kurdistan syrien, le Rojava. Il s'y passe une société écoféministe, démocratique, pluraliste, qui s'y développe sous l'impulsion notamment des femmes kurdes. Nous avons abordé ces aspects avec l'association Femmes Solidarité Kobané, sur laquelle nous reviendrons dans une de nos prochaines chroniques kurdes. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir plus en détail sur ce qu'est le Kurdistan, le peuple kurde, son histoire et la réalité aujourd'hui de ce peuple.
Le Kurdistan. Nous sommes dans une région du monde où la guerre couve depuis longtemps, très longtemps. Et pas seulement depuis que les Bush père et fils ont fait lever la fameuse tempête du désert en 1991, depuis bien plus longtemps. Cela remonte à la fin de l'Empire ottoman, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les accords Sykes et Picot ont alors organisé le dépeçage de l'Empire. À l'époque de la signature, la région faisait depuis 3 siècles partie de l'Empire ottoman et était de ce fait unifiée. Les grandes villes millénaires, Bagdad, Damas, Jérusalem et Constantinople, aujourd'hui Istanbul, n'étaient alors séparées par aucune frontière et les liens entre elles étaient nombreux et vivaces. Les diplomates et les militaires français et britanniques allaient tailler dans le vif en créant des régions, puis des pays, en fonction des seuls intérêts stratégiques et commerciaux de leurs impérialismes. Les accords conclus le 16 mai 1916, il y a exactement 100 ans, ignorent les frontières culturelles, ethniques, naturelles. Il trace de nouvelles frontières d'un trait de plume, ce sera la source d'inévitables conflits à venir. Comme le dit le chanteur Tikenja Fakouli, ils ont partagé le monde et ils s'étonnent que nous soyons désunis. Ce fut donc, après la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui avait été l'allié des Allemands pendant la guerre, et qui faisait donc partie des perdants. La population kurde, qui était installée dans une partie de cet empire ottoman qui en constituait une région, était alors composée de 30 à 40 millions d'habitants. Ce peuple kurde se retrouve partagé entre 4 États construits par ces accords : la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Pour les dirigeants de ces États, le droit des peuples n'existe pas. Et selon le moment, ou selon leur choix politique, ces États ont soit toléré, soit ignoré, soit réprimé, soit massacré la population kurde, dont la situation est ainsi fonction à la fois des régimes de ces 4 États, mais également des conflits entre eux, et de leur rapport avec les grandes puissances. Aujourd'hui, la population kurde en Turquie, réunie dans la région que l'on nomme le Bakour, est constitué d'environ 25 millions d'habitants. En Iran, ce sont 7 à 9 millions de Kurdes qui occupent la région du Rojilat. En Irak, environ 5 millions de Kurdes habitent la région du Bachour. Et en Syrie, ce sont environ 4 millions de Kurdes qui se retrouvent dans la région nord de la Syrie, le Rojava. Il y a également environ 2 millions de Kurdes en Europe occidentale, dont 1,5 million en Allemagne et environ 250 000 en France. Nous allons maintenant donner quelques points de repère historiques sur les Kurdes dans chacun de ces quatre pays.
Commençons par la Turquie. Donc en Turquie, le Kurdistan s'appelle le Bakour. Au niveau historique, on peut évoquer les révoltes kurdes dans les années 1920-1930 qui ont été noyées dans le sang par le régime de Mustafa Kemal. La plus célèbre de ces révoltes, c'est le soulèvement de Dersim en 1937 qui finira avec la moitié de la population déportée vers les villes de l'Ouest ou exterminée. On a exterminé 40 000 personnes. Ce sera le premier génocide kurde de l'histoire. Depuis 1984, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, déclenche un mouvement de guérilla. On va y revenir.
En Iran, les Kurdes représentent un sixième de la population. En 1979, à l'occasion de la révolution contre le Shah d'Iran, un espoir a été suscité, mais il n'y a pas eu de reconnaissance de leur spécificité au niveau national. Quelques mois plus tard, une fatwa de l'ayatollah Khomeini, arrivée au pouvoir, déclare le djihad contre les Kurdes. La répression s'abat alors sur eux. Les régions kurdes d'Iran, correspondant à quatre provinces du Nord-Ouest, sont toujours parmi les plus pauvres du pays. Le chômage y atteindrait 50%. Et l'actuel régime de Rouhani réprime brutalement toute pratique déviant de la loi. Au-delà des peines de prison, les Kurdes subissent torture, exécution, lapidation.
En Irak, c'est-à-dire au Bachour, la situation est particulière. En 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, donc l'ayatollah Khomeini en Iran et Saddam Hussein en Irak, les régions kurdes subissent une violente répression, et notamment des bombardements au gaz par l'armée de Saddam Hussein. Ce sont les différentes opérations Anfal qui vont aboutir à la mort de 180 000 civils, dont notamment les 5 000 habitants de la ville martyre de Halabja. Suite aux guerres du Golfe, depuis 1991, déclenchées par les USA, les régions kurdes d'Irak aboutissent à une autonomie de fait. Ceci étant, il faut rappeler que les occupants américains ont préféré laisser l'armée irakienne mater une révolte kurde à la fin de la première guerre du Golfe, par crainte d'un pouvoir révolutionnaire kurde qui aurait pu naître des rébellions. À la suite de quoi, les États-Unis ont pu se présenter en protecteur de la population kurde, en imposant au nord, au-delà du 36e parallèle, une zone d'exclusion aérienne interdisant les incursions de l'armée de Saddam Hussein. C'est cette mesure qui a permis le retour des populations qui avaient fui vers la frontière turque et l'instauration d'un pouvoir politique partagé entre les deux partis kurdes d'Irak, le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Jalal Talabani. Ce pouvoir bénéficiait donc du soutien des États-Unis, mais aussi de l'accord de la Turquie voisine. C'est ce qui a donné le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan. Notamment, le PDK et l'UPK se montraient prêts à affronter la guérilla kurde de Turquie, dirigée par le PKK, et à l'empêcher d'utiliser leur territoire comme base arrière. Il s'en est ensuivi une certaine aisance de cette région kurde d'Irak, alors que le reste du pays, sous l'effet de l'embargo occidental, s'enfonçait dans la misère. À l'occasion de la deuxième guerre du Golfe, en 2003, le nouveau pouvoir, sous protection américaine, après le renversement de Saddam Hussein, reconnaît officiellement l'autonomie du Kurdistan irakien. Les deux parties, UPK et PDK, avec leur armée régulière, les Peshmerga, contrôlent solidement la région. Ils disposent des ressources pétrolières de la région de Kirkuk. Ils développent le commerce avec la Turquie voisine. En quelques années, des universités ouvrent, des hôpitaux, des aéroports, des autoroutes, etc. Ce développement économique profite à la petite bourgeoisie kurde irakienne. Les deux partis, à l'origine concurrents, s'entendent pour le partage du pouvoir et des revenus découlant de l'enrichissement de la classe dirigeante. Ce pouvoir se permet y compris de passer des accords directs avec les compagnies pétrolières occidentales, sans en référer au gouvernement central, et surtout en s'en réservant les revenus. Autre caractéristique, le développement très capitaliste de la capitale du Kurdistan irakien, Erbil.
En Syrie, les Kurdes constituent plus de 10% de la population. Ils sont officiellement privés de tout droit et, pour la plupart, de la nationalité syrienne. On les retrouve au Rojava, région située au nord de la Syrie. La rébellion qui éclate en 2011 contre Bachar el-Assad en Syrie change la situation des Kurdes. Pour éviter de combattre les Kurdes à un moment où ils devaient combattre sur de nombreux autres fronts, Assad a accepté de céder le pouvoir au Rojava au parti kurde de Syrie, le PYD, parti de l'Union démocratique, qui a ainsi proclamé l'autonomie du Rojava en novembre 2013.
On va maintenant s'intéresser à l'histoire récente des luttes au Kurdistan.
Dans les années 70, des mouvements de libération nationale kurde apparaissent en Turquie, inspirés notamment par les mouvements en Amérique latine. En particulier le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été créé en 1978 par des étudiants marxistes-léninistes qui voulaient voir évoluer la société tribale kurde en une société révolutionnaire et indépendante de la souveraineté turque. Après le coup d'État de 1980 en Turquie, le régime militaire va se déchaîner sur tous les militants de gauche en emprisonnant et exécutant une bonne partie. Le PKK décide alors de prendre les armes et lance le 15 août son premier soulèvement. Constitués en comités régionaux qui font du porte-à-porte et qui essayent d'attirer un maximum de familles, le PKK devient assez vite le principal acteur de la lutte kurde. Les années 80 et 90 seront marquées par la guerre entre d'un côté l'armée turque et de l'autre les combattants du PKK et les civils habitant les villes et villages kurdes. Environ 4000 villages sont brûlés, à nouveau 3 millions de réfugiés quittent leurs terres, 30 000 civils sont tués et des milliers de militantes et militants et intellectuels sont emprisonnés, beaucoup d'ailleurs sont toujours derrière les barreaux. Ces décennies sanglantes auront gravé la mémoire des Kurdes et auront laissé orphelines toute une génération de jeunes qui ont perdu leur père ou un autre proche et qui se battent actuellement contre la police et l'armée depuis cet été. Mais c'est aussi de cette période que le PKK tire sa réputation de stalinien. Il est vrai que, comme toute force armée dans une guerre, le PKK n'est pas tout blanc et a commis des violences douteuses, y compris à l'intérieur du mouvement. Néanmoins, une grande partie de la population kurde de Turquie reconnaît au PKK et à son leader Abdullah Öcalan leur courage et leur détermination qui auront réussi à créer un véritable rapport de force capable de faire valoir certains de leurs droits de base. Par exemple, depuis les années 2000, la langue kurde et le mot « kurde » ne sont plus interdits en Turquie. Quelque chose d'impressionnant pour un mouvement politique de masse, c'est l'autocritique qui a été portée d'abord par le leader, Apo, c'est-à-dire Tonton, qui est enfermé sur l'île prison d'Imrali depuis 1999. Cette réflexion sur le PKK et les autres luttes de libération nationale a mené le PKK à adopter une toute autre philosophie et tactique politique nommée le confédéralisme démocratique. On en a parlé dans la première chronique kurde sur notre radio. Le confédéralisme démocratique prône, comme son nom l'indique, une organisation confédérale de communes locales coordonnées entre elles à plusieurs échelles. Il s'agit en fait d'une adaptation du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, fondateur de l'écologie sociale. Cette approche est prônée par l'ensemble du mouvement de lutte kurde en Turquie et expérimentée dans une certaine mesure dans le Kurdistan de Turquie, le Bakour, et une plus grande mesure dans le Kurdistan de Syrie, le Rojava, depuis sa prise d'autonomie face au régime de Bachar el-Assad en 2012.
Bien, cette deuxième chronique kurde se termine. Merci de nous avoir écoutés. Elle sera évidemment disponible en ligne sur microrebelle.fr. Et à très bientôt pour la troisième de nos chroniques kurdes. C'est la fin de cette émission Micro Rebelle Hebdo. Merci de nous avoir écoutés. Donc peut-être quelques rappels avant de nous quitter. N'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous souhaitez passer sur notre antenne. Si vous avez des idées de reportage, hein, nous vous confions du matériel, nous vous formons et vous pourrez mener votre propre chronique ou alors une émission qui vous tient à cœur. Pour nous contacter, le plus simple, c'est le courrier électronique hein, contact@microrebelle.fr. Sinon, toutes les infos, tout le suivi, c'est sur notre site microrebelle.fr. À très bientôt. Peut-être un dernier rappel avant de nous quitter. Microrebelle est une jeune association qui démarre ses activités radiophoniques. Nous sommes en recherche de moyens financiers. Typiquement pour des questions d'achat de matériel et de locations diverses et variées. Nous vous sollicitons, hein, le plus simple c'est le chèque à l'ordre de Micro Rebelle. Bien, pour terminer cette émission Micro Rebelle Hebdo, nous allons écouter un morceau de musique libre. Vous savez qu'à Micro Rebelle, nous sommes particulièrement attachés à tout ce qui est données libres et musique libre, hein, de même que l'ensemble des logiciels que nous utilisons sont des logiciels libres. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire écouter avec plaisir hein, un groupe de rock français qui s'appelle Contrebande et un morceau qui s'intitule « Le cauchemar de Kipling ». Alors ce morceau, très sincèrement, c'est une belle claque hein, et un vrai plaisir de découvrir un groupe de rock français aussi talentueux. Alors cette musique, ce morceau dure un peu plus de 8 minutes et il alterne des passages plus ou moins intenses en gardant toujours en vue une ambiance bien particulière. Donc c'est une vraie caractéristique du rock alternatif et c'est finalement ce qui sublime ce morceau. Donc on a une vraie identité musicale, hein, très palpable, de belles mélodies, des arrangements subtils à la guitare, un chant parfois léger, parfois puissant, et pour couronner le tout, quelques passages très sympathiques au violon. Un groupe réellement très intéressant, nous vous le laissons écouter avec plaisir.
Si tu sais cacher, si tu sais rire, si tu sais pleurer, sur commande et à volonté, dans toute situation donnée. Si tes yeux respirent la vérité, même lors d'un mensonge éhonté, alors tu feras partie des grands, mon fils. Partie des grands.